Radio Okapi.
Le journal Blaise Chindel.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal dont voici les titres. OCHA indique que la situation humanitaire en République démocratique du Congo demeure alarmante. L'insécurité alimentaire atteint un niveau critique. Près d'un Congolais sur quatre peine à couvrir ses besoins alimentaires de base, ajoute cette structure. Nous parlerons aussi de cette bonne nouvelle pour les pays africains, notamment la RDC. Le Congrès des États-Unis a renouvelé la loi américaine sur la croissance et les opportunités en Afrique, connue sous le nom d'AGOA. Cette loi permet aux pays africains, dont la RDC, d'exporter plusieurs produits vers les États-Unis sans droit de douane. La paie des salaires des enseignants en RDC reste un défi important. Dans la province du Haut-Lomami, par exemple, les enseignants du territoire de Malimbankoulou revendiquent le paiement de leurs arriérés des salaires de 3 mois. Cette thématique était débattue dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier. Vous allez suivre tour à tour les co-débatteurs dans cette émission animée par Guima Tetsongo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal du matin. Notez d'abord qu'une très forte pluie a secoué Kinshasa pendant plus de 3 heures d'hier mercredi. Comme à l'accoutumée, de fortes inondations ont été observées sur les grandes artères de la capitale, des rivières débordées. Et cette situation a créé des embouteillages monstres. Nous y reviendrons avec force détail. Et puis cette alerte du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, indique que la situation humanitaire en République démocratique du Congo demeure alarmante. Selon un rapport, le pays a enregistré 24,8 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire, 5,3 millions de déplacés internes et 560 500 incidents de protection entre janvier et décembre 2025. Des détails avec Nancia Tambo.
Ces chiffres traduisent l'ampleur d'une crise multidimensionnelle qui affecte profondément les populations civiles, en particulier dans les provinces de l'Est du pays, mais aussi dans plusieurs zones de santé de l'Ouest, selon la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. L'insécurité alimentaire atteint un niveau critique. Près d'un Congolais sur quatre peine à couvrir ses besoins alimentaires de base, ajoute cette structure. La situation est aggravée par la persistance des conflits armés, l'instabilité économique, les chocs climatiques et la hausse du coût de la vie. Les ménages les plus vulnérables, notamment les femmes, les enfants et les personnes âgées, sont les premières victimes de cette précarité croissante. Parallèlement, les déplacements forcés continuent de s'intensifier. Au charissant, 5,3 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays, fuyant les violences armées, les attaques de groupes armés, les conflits communautaires et les catastrophes naturelles. Le Nord Kivu, le Sud Kivu, l'Ituri et le Tanganyika figurent parmi les provinces les plus touchées. OCHA souligne l'urgence d'un renforcement de l'assistance humanitaire et d'une meilleure protection des populations affectées.
Parlons justement des conflits armés, notez que des violents affrontements ont été signalés ce mercredi au centre commercial de Boulé en Ituri. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, s'opposaient aux miliciens du groupe armé CRP, Convention pour la Révolution Populaire, de Thomas Lubanga dans les territoires de Djougou. Conséquence immédiate, encore une fois, les habitants qui retournaient dans leur domicile ont de nouveau fui. Notez aussi que les activités socio-économiques qui reprenaient timidement depuis quelques jours sont hélas à nouveau complètement paralysées. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
D'après des témoignages recueillis sur place, les combats ont éclaté vers 8h du matin, heure locale, dans la localité de Nglé, non loin du site déplacé installé dans la plaine de Savo. Un habitant réfugié dans cette zone pour se mettre à l'abri des tirs affirme que les premières détonations ont sémé une vive panique au sein de la population composée en grande partie de personnes déplacées. Ces échanges de tirs auraient duré près de 6h d'après nos sources. Des témoins rapportent que des éléments de la CRP sont de nouveau visibles au centre commercial de Boulé où les rares commerces ayant rouvert après une courte période d'accalmie ont aussitôt fermé leurs portes. Ces nouveaux affrontements surviennent à peine une semaine après la visite conjointe des autorités militaires des FARDC et de la MONUSCO dans cette entité. Cette mission visait à rassurer les habitants sur la protection des civils et à rétablir la confiance entre la population et les forces de sécurité. Pour l'heure, aucun bilan officiel n'a été communiqué et les responsables de l'armée n'ont pas encore fait de déclaration à ce sujet. Bounia, Jean-Claude Lucky. dit les Radio Okapi.
Entre-temps, membres de la société civile, autorités locales et des parlementaires du Nord Kivu sont sensibilisés depuis hier mercredi sur le nouveau mandat de la MONUSCO. Objectif, engager toutes ces personnes près des 60 venues de Beni, Butembo et Lubero dans les processus de paix. Également au programme, la lutte contre la désinformation et protection des civils pour soutenir la stabilisation des régions de Beni, Butembo et Lubero. Marc Marofimbo pour les détails.
Lors de cette première journée, les participants ont été sensibilisés au contexte du nouveau mandat de la MONUSCO, défini par la résolution 2808 du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi qu'au processus de paix en RDC et aux mécanismes ad hoc existants. Ils ont également été outillés sur les rôles de la société civile dans le processus de paix, ainsi que sur la participation de la jeunesse et des femmes aux différentes initiatives de paix en RDC. Le vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Jean-Louis Karawa, a salué cette initiative, soulignant l'importance de la participation citoyenne dans la prise de décision.
J'ai salué l'initiative par la section de l'affaires civiles de la MONUSCO d'organiser cette session qui favorise la pleine participation de la société civile. Je réaffirme l'engagement des autorités provinciales à travailler en étroite collaboration avec tous les acteurs ici présents dans le respect des lois de la République, des droits humains et des principes de bonne gouvernance.
Cet atelier qui se clôture ce jeudi sera sanctionné par l'élaboration d'un acte d'engagement et par la définition des stratégies et des mécanismes visant à renforcer la participation des jeunes, des femmes et des personnes vivant avec handicap dans le processus de paix. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Place à présent à cette bonne nouvelle pour les pays africains, notamment la RDC. Le Congrès des États-Unis a renouvelé la loi américaine sur la croissance et les opportunités en Afrique, connue sous le nom d'AGOA, jusqu'au 31 décembre 2026. Cette loi permet aux pays africains, dont la République démocratique du Congo, d'exporter plusieurs produits vers les États-Unis sans droit de douane. Une décision saluée par le gouvernement congolais à travers le ministre des Commerces extérieurs, Julien Paluku Kahongya, qui estime que ces renouvellements constitue une opportunité majeure pour les opérateurs économiques congolais appelés à en tirer pleinement profit. Par ailleurs, le ministre du Commerce extérieur dit avoir été rassuré hier mercredi à Dubaï de l'achèvement de la première phase des travaux de construction et de modernisation du port en eau profonde de Banana d'ici la fin de l'année 2026. On écoute le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, dans cet extrait proposé par Grace Hamzati Masanzi.
Ce renouvellement est pour nous un signal fort parce que vous vous rappelez qu'en 2024, nous étions à Washington lorsque nous avions décroché l'organisation du Forum AGOA à Kinshasa. Depuis lors, la loi avait été suspendue. Mais comme elle vient d'être reconduite, nous sommes très satisfaits. Nous lançons un appel à nos opérateurs économiques particulièrement, qui sont dans le secteur agro-industriel, que les produits qui sont aujourd'hui concernés par la loi AGOA sont particulièrement les cafés, les cacao, l'huile de palme, mais également beaucoup d'autres produits parce que nous avions listé un ensemble de 26 produits qui sont concernés par les préférences commerciales. Et donc cela permet à nos populations de revenir, comme je l'ai dit toujours, aux sources, revenir aux champs, cultiver davantage parce qu'au-delà des marchés que nous avons conquis ailleurs, aujourd'hui, le marché américain est à la disposition des Congolaises et des Congolais pour écouler leurs produits. Une autre bonne nouvelle, effectivement, c'est que nous avons rencontré le CEO, qui est le chairman de DP World, qui nous a rassuré que le projet évolue très bien et qu'à la fin de cette année 2026, eh bien, la première partie du port en eau profonde de Banana sera plus ou moins achevé et que les premières cargaisons vont déjà commencer à atterrir à Banana, ce qui va fluidifier le flux commercial entre nous et le reste du monde.
L'actualité, c'est aussi ce tête-à-tête Félix-Antoine Tshisekedi avec John Jovanovic, président de la Bank of the United States, hier mercredi à Washington. Au menu, le renforcement du partenariat stratégique entre la RDC et les États-Unis, qui est en matière notamment de la commercialisation des minerais critiques congolais, la transformation locale et la création des chaînes de valeur industrielles et enfin, le projet structurant du corridor de Lobito et du barrage d'Inga. Restons dans ce chapitre économique pour vous signaler la tenue hier mercredi toujours à Washington de la tenue de la réunion ministérielle inaugurale sur les minéraux critiques, des assises présidées par le secrétaire d'État américain Marco Rubio. But de cette rencontre, renforcer et diversifier les chaînes d'approvisionnement mondiales afin de réduire la domination de la Chine dans ces secteurs stratégiques. Un accent particulier est mis sur la République démocratique du Congo. Élisée Chikota Chivueta nous en dit plus.
Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du Project Volt, un plan de l'administration Trump destiné à créer une réserve stratégique américaine des minéraux critiques tels que les terres rares, le cobalt et le lithium, financés à hauteur de 12 milliards de dollars. Selon les organisateurs, des délégations de plus de 50 pays sont attendues, incluant des représentants d'Europe, d'Asie et d'Afrique. La RDC y participe avec la présence annoncée du président Félix Tshisekedi. La République démocratique du Congo occupe une place centrale dans cette réunion. Leurs récents échanges bilatéraux, notamment avec le ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, marquent une nouvelle étape du partenariat stratégique RDC-États-Unis. Washington a exprimé son ouverture à un accord de type minerai contre sécurité qui offrirait un accès privilégié aux ressources congolaises, cuivre, cobalt et coltan, en contrepartie d'investissements américains dans les infrastructures.
Autre nouvelle, à Mbandaka cette fois, un groupe de personnes se présentant comme des citoyens révoltés grincent les dents. Ils demandent au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, d'ordonner la dissolution pure et simple de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Ils ont exprimé cette demande dans une pétition rendue publique au début de cette semaine devant la presse locale. Les pétitionnaires accusent l'Assemblée provinciale de s'immiscer dans la gestion des activités du gouvernement provincial. Reportage signé Askin Zigbia.
Ces citoyens ont déjà lancé une campagne de collecte de signatures auprès de la population de Mbandaka. Selon eux, plus de 25 000 signatures suffiraient pour exiger la dissolution de l'Assemblée provinciale de l'Équateur au regard de manquements graves qu'ils disent avoir observés dans l'exercice de fonction des députés provinciaux. Papi Ekate Ekofo, rapporteur de Citoyens Révoltés, énumère quelques dérapages documentés.
Il est constaté que les députés provinciaux se substituent illégalement à l'exécutif provincial. Ils procèdent à des remplacements arbitraires d'agents et fonctionnaires de l'État. Ils interfèrent dans les secteurs de la santé, de l'éducation et des chefferies traditionnelles.
De son côté, l'Assemblée provinciale de l'Équateur estime que cette pétition n'a aucune valeur juridique permettant de provoquer sa dissolution, comme l'a indiqué son rapporteur Ezekiel Mbokani.
Les allégations laissent croire à un quelconque conflit entre l'exécutif provincial et l'organe délibérant ne tiennent pas. Car, en réalité, la collaboration entre les deux institutions reste harmonieuse et orientée vers le développement intégral de la province.
Selon certaines indiscrétions à Mbandaka, plusieurs députés provinciaux se comporteraient comme des commissionnaires intervenant notamment pour faire recruter leurs proches au sein des institutions publiques.
Des femmes leaders font entendre leur voix en Mbujimayi au Kasaï oriental. Elles sont 20 femmes candidates potentielles aux prochaines élections qui suivent depuis lundi une formation axée sur la confiance en soi, la communication des campagnes et la participation électorale. Cette initiative portée par la Fondation internationale pour les systèmes électoraux IFES s'inscrit dans le cadre du programme SHE-LEAD qui vise à accroître l'implication des femmes dans la vie politique et à renforcer leur rôle des leaders au sein de leur communauté. Des explications avec Esther Ndalafina.
Pendant plusieurs jours, les participantes bénéficieront d'outils pratiques pour affiner leur message de campagne, développer leurs compétences en leadership et s'affirmer dans un environnement politique souvent dominé par les hommes. Odette Okako, membre du peuple autochtone pygmée, a eu des connaissances sur la prise de parole en public.
Avant ce programme, je ne savais même pas exprimer en public. Grâce à SHE-LEAD ici, je peux quand même sensibiliser mes amis les peuples autochtones pour que puissions participer aux élections comme toute autre personne.
Cependant, toutes les femmes ne partagent pas le même avis. Certaines femmes interrogées dans les rues de Mbujimayi estiment que s'exprimer en public ternit l'image de la femme.
La prise de parole devant une assemblée reste associée à une attitude jugée contraire aux normes sociales traditionnelles ici chez nous.
D'après Raissa Chikandama, chargée de communication à IFES, l'objectif est clair, donner aux femmes les moyens de s'imposer sur la scène politique locale et nationale.
Dans les provinces en République démocratique du Congo, il y a vraiment des femmes qui ont un problème sur la confiance en soi. Or que la confiance en soi fait partir des talents pour une leader.
Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Saïf Al-Izzah Azlam. Kadhafi a été assassiné en Libye ce mardi 3 février à l'âge de 53 ans. Le fils cadet de l'ancien dictateur libyen Muammar Kadhafi a été tué par balle à son domicile à Zintan dans le nord-ouest du pays. Une enquête a été ouverte dans la foulée pour faire la lumière sur cet assassinat. Une nouvelle attaque a fait au moins 162 morts ce mardi 3 février dans le village de Woro dans le centre-ouest du Nigeria au moment où le pays accroît ses efforts pour lutter contre son insécurité endémique liée à des gangs criminels et des djihadistes avec le soutien des États-Unis. L'état de Kwara est le théâtre d'importantes violences depuis plusieurs mois, alors que des bandits chassés par l'armée se déplacent d'une région à l'autre.
L'invité.
La paix des salaires des enseignants en RDC reste un défi important. Dans la province du Haut-Lomami, par exemple, les enseignants du territoire de Malemankulu revendiquent le paiement de leurs arriérés des salaires de 3 mois. Les territoires de la province du Kasaï central et de beaucoup d'autres provinces ne sont pas épargnés. Certains enseignants n'ont toujours pas reçu leur salaire du mois de novembre et de décembre 2025. Les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier mercredi sont revenus sur cette problématique. On les écoute au micro de Guy Maté.
Madame Cécile Tshiombo, vous êtes secrétaire générale du syndicat des enseignants du Congo, SIECO en sigle. Comment vous expliquez ces difficultés que les enseignants de la RDC connaissent depuis plusieurs années pour accéder à leur salaire?
Et depuis 2016, au lieu que le salaire arrive, comme prévu dans des écoles de proximité, et ce salaire n'arrive pas. Il faut commencer par dire qu'il y avait des coupeurs des routes et que l'argent était confisqué par ces coupeurs. Il faut dire qu'il y avait l'argent qui était brûlé dans des pirogues. Mais lorsque nous menons les enquêtes, les pirogues étaient vides. Il n'y avait ni feu, ni sac d'argent qui s'était brûlé. Mais curieusement, nous comprenons et nous apprenons, même en face de certains responsables de l'IFOD, il nous avait été donné une réponse comme ceci, que l'État congolais a notre dette et en retour, l'IFOD a aussi une dette des frais de fonctionnement et aussi de la prime des écoles primaires. Vous allez trouver que il faut de payer les enseignants par délestage. Ça signifie que il arrive quelque part, il paye un territoire, il laisse un autre, ou soit, je prends un exemple. L'État congolais a payé 13 milliards quelques francs congolais. Mais quand il faut d'arriver à Bokungu, il paye Bokungu novembre et décembre avec un manquant sur l'enveloppe salariale de 30 millions. Et vous allez comprendre aussi qu'il n'a pas versé, l'IFOD n'a pas versé les frais de fonctionnement et la prime. Nous proposons ceci. Il y a des banques qui doivent quitter la paye telle que l'IFOD. Nous proposons que Afriland quitte la paye. Il y a d'autres banques que, avec réserve, nous ne pouvons pas encore citer leur nom. Que l'État congolais a des moyens. Il n'a qu'à créer une banque ou qu'il réfectionne Caritas ou les agences de la Banque centrale ou encore retourner dans des fins fonds de notre pays aux comptables d'État.
Guy Marek Kamanji, vous êtes chargé de communication de la Caritas Congo Asbel. Impliquer les opérateurs téléphoniques qui sont présents sur toute l'étendue du territoire national ne peut-il pas constituer une solution à toutes ces difficultés?
Oui, tout dépend de la capacité d'opération de ces shops ou boutiques ou de ces agents qui sont sur le terrain. Très souvent, vous pouvez vouloir retirer 200 000 francs ou disons 500 000 francs, mais ces compatriotes qui a ouvert une boutique qui a les différents opérateurs de mobile banking peut ne pas avoir suffisamment d'argent pour servir 4, 5, 20 ou 100 enseignants. Donc il faut bien étudier cette question et peut-être la solution viendrait par ce déploiement des banques dans les territoires et puis mêler cette opération avec l'intervention de certains opérateurs, mais qui auront déjà eu la tâche facilitée par les banques de proximité.
Merci. Jean-Paul Aouidi, vous êtes professeur, vous êtes directeur du centre de recherche de l'Université pédagogique nationale IPEN en sigle. Qu'est-ce que vous proposerez au gouvernement pour améliorer justement ces processus de la paix des enseignants?
Ce que je peux dire au gouvernement,
c'est de considérer que les plaintes des enseignants n'est pas du théâtre. Et ce n'est pas parce qu'ils veulent que le gouvernement dise quelque chose en leur faveur qu'ils sont en train de hausser le ton. Et le fait de hausser le ton, c'est une manière de crier au secours. Venez à nous, parce que nous sommes en train de souffrir. Alors, fermer les oreilles, ce n'est pas une bonne chose. Et maintenant que tous ces enseignants sont en train de nous écouter, ils éprouvent un peu de la satisfaction, parce qu'au moins, on parle d'eux. Alors, nous aussi, nous ne pouvons pas les condamner. On ne peut pas condamner celui qui se plaint. Celui qui se plaint, il se rend compte qu'il y a un, ça ne va pas en lui. Alors, le fait de les dire, nous devons aussi l'encourager. Parce qu'au moins, il vient de dire quelque chose, attirer votre attention sur moi. Alors, maintenant que le gouvernement fasse quelque chose de mieux pour qu'on puisse trouver des solutions devant permettre à ce que les enseignants puissent avoir leur salaire. Et quand ils ont leur salaire, ils vont bien s'occuper maintenant des enfants qui sont à l'école.
Et c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal parlé du matin qui a connu la coordination et la supervision éditoriale de Livin Mbouinga-Vubu et mise en ordre par Dieudonné Nyangasa Wanyangasa. Ce journal est aussi disponible sur notre site internet www.radiocapi.net.